Et justement, donc, transition toute trouvée, parce qu'on va un peu alterner ce matin entre les littéraires et les historiens. Donc, Maureen Attali représente ici cette partie-là. Elle est docteure en histoire et en anthropologie religieuse, et elle enseigne l'histoire ancienne à l'université d'Angers. Ses recherches, donc pour ce qui nous concerne plus directement, portent sur la représentation et l'usage de l'histoire et des traditions antiques dans les productions culturelles contemporaines. Donc elle a travaillé sur les religions de Westeros, de Game of Thrones, ou sur le personnage de Lilith dans la série True Blood. Et ici, c'est l'exemple de Lavinia, d'Ursula Le Guin, qui va lui permettre de parler de l'intrication entre fantaisie, mythe, histoire et littérature.
Tout ça. Je suis pas sûre de pouvoir d'arriver à parler dans le micro.
Comment ça?
Techniquement, je suis pas sûre d'en être capable.
Ah si. En fait, tu parles et puis le micro est là et en fait, ça se transmet directement.
Ok. Alors, donc je vais vous parler d'une réécriture de l'Énéide que l'on doit à Ursula Le Guin et qui s'appelle Lavinia, qui est sortie en 2008. Alors en prélude, je voulais juste vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, que j'avais pas du tout prévu de parler de ça quand j'ai vu l'appel à communication. J'avais prévu de parler de Guy Gabriel Kay, mais Ursula Le Guin est décédée entre-temps et je me suis dit que ça la ferait peut-être découvrir à certains membres du public et que c'était un hommage à lui faire. Donc Lavinia se présente comme une réécriture des 6 derniers livres de l'Énéide, un poème épique de Virgile écrit sous le principat d'Auguste. Où je situe, c'est la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Virgile. Et ce poème rapporte les origines de Rome en reprenant ce qu'on appelle la légende troyenne, qui était déjà bien connue sous la République romaine. C'est la légende selon laquelle les fondateurs mythiques de Rome, Romulus et Rémus, seraient des descendants d'Énée, le prince troyen des poèmes homériques. Énée aurait survécu à la chute de Troie, et après un long périple, qui est ici représenté, se serait installé avec ses compagnons en Italie, dans la région du Latium. Et il aurait épousé Lavinia, la fille de Latinus, le roi des Latins. Le roi de beaucoup de choses, je laisse tomber, on va dire que c'est le roi des Latins. Dans la version d'Ursula Le Guin, Lavinia est à la fois la narratrice et la protagoniste. Donc le monde dans lequel se déroule l'intrigue de ce roman correspond à celui que l'on trouve décrit dans, en général, le premier chapitre de tous les manuels d'histoire romaine, qui s'appelle souvent les origines de Rome, et qui vise à présenter ce que l'on sait actuellement de l'histoire de cette région, le Latium, avant la période romaine, c'est-à-dire avant la fondation de Rome. Donc qu'est-ce qu'on sait des peuples qui y étaient installés? Qu'est-ce qu'on sait de leur mode de vie? Qu'est-ce qu'on sait des relations entre ces peuples entre le XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est la date traditionnelle de la guerre de Troie et de l'arrivée d'Énée dans le Latium, et la date traditionnelle et supposée de la fondation de Rome au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. En effet, les sources littéraires comme l'Énéide et les précédentes moutures de la légende troyenne, parce qu'il y en a d'autres, sont l'une des sources principales pour l'histoire de l'Italie archaïque. On les considère comme des réceptacles de traditions élaborées à partir d'un noyau historique, certes parfois très ténu. Le travail des historiens de l'Antiquité consiste donc à confronter ces récits aux sources archéologiques disponibles, qui ne sont pas nombreuses, afin d'identifier leur substrat historique et afin de distinguer des éléments qui relèvent de la seule création littéraire. Ça, c'est l'horizon. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas toujours. Dans ce contexte, Lavinia relève à la fois du projet littéraire et du projet historique et même historiographique. Dans la mesure où c'est une réécriture d'une source documentaire, l'Énéide, l'œuvre, le roman Lavinia, révèle une vision de l'histoire, une dimension qui est explicitement assumée par l'auteur dans la postface du roman. Ursula Le Guin affirme s'être nourrie de travaux universitaires pour faire à son tour œuvre d'historienne en débarrassant le récit virgilien des éléments qui lui paraissent avoir trait non pas aux sociétés italiques du tournant du premier millénaire avant Jésus-Christ, mais à la situation politique et sociale de l'époque de Virgile, la Rome augustéenne. Ce faisant, l'écrivain propose une véritable reconstitution historique, au sens fort du terme, parce qu'elle s'inscrit dans les débats historiographiques, certains anciens et d'autres plus actuels, sur l'utilisation pertinente des sources littéraires en histoire. Comment distinguer, d'une part, les différentes strates qui composent une œuvre, les différentes périodes historiques auxquelles celle-ci fait allusion, et d'autre part, ce qui relève de l'élaboration littéraire qu'on appelle communément la licence poétique. Les choix effectués par l'auteur, Ursula Le Guin, et son style d'écriture sont un plaidoyer en faveur de certains types de discours et de certaines méthodologies de la recherche historique. Et donc, je vais essayer, parce qu'à mon avis, je ne vais pas réussir, d'explorer ce thème à travers ce point, cette question à travers trois thèmes successifs. D'abord, la narratologie comme une réflexion sur l'exploitation des sources historiques. Ensuite, la réécriture comme reconstitution d'une expérience féminine de l'histoire. Et enfin, s'interroger sur ce qu'est l'élément fantasy dans ce roman qui, à mon avis, vient remplacer une théologie de type animiste. Alors, en ce qui concerne la construction narrative, l'ambiguïté, tout est lié à l'ambiguïté du statut de la protagoniste, puisque, avant tout, l'intrigue de Lavinia n'est pas du tout rapportée dans l'ordre chronologique. Si j'en reste à la construction générale de l'œuvre, les deux premières pages du récit décrivent l'arrivée des Troyens dans l'embouchure du Tibre, à laquelle assiste Lavinia. Les 98 pages suivantes, jusqu'à la page 100, c'est un flashback sur la vie de Lavinia jusqu'à ce moment. Et ce n'est que page 100, dans l'édition de poche, que l'on reprend le fil de l'intrigue avec l'arrivée des Troyens dans l'embouchure du Tibre. Donc cette construction, non chronologique, c'est un calque du début du chant 7 de l'Énéide, où, après l'arrivée des Troyens au Latium, Virgile insère une digression sur la situation politique dans la région. Ce choix de construction souligne que l'arrivée des Troyens est un tournant dans l'histoire du Latium comme dans la vie de Lavinia, parce que c'est l'accomplissement d'un oracle qui a été fait à Lavinia et selon lequel elle épousera un étranger. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce roman, c'est que la prophétie n'a pas été faite par le représentant d'une divinité, comme c'est le cas dans le monde antique, mais par Virgile, puisqu'en effet, Virgile est un personnage du roman que Lavinia rencontre dans une forêt, dans un bois sacré, alors qu'elle est en train d'offrir un sacrifice. Virgile, à ce moment-là, se trouve mourant sur le... Son corps se trouve sur le bateau qui le mène à Brindisi, là où il va trouver la mort, et sa conscience rencontre Lavinia. Le récit s'affranchit ainsi de la conception linéaire du temps, dont on vient de parler, en faisant dialoguer deux personnages qui sont censés avoir vécu à 1000 ans d'écart, plus de 1000 ans d'écart. Cette juxtaposition souligne l'ambiguïté du personnage de Lavinia. Est-ce un personnage historique? Est-ce un personnage mythologique? Est-ce un personnage littéraire? Qui est la question permanente que se posent les historiens de l'Antiquité à partir d'une multitude de personnages. S'il existe une Lavinia dans la tradition romaine, c'est pour deux raisons. D'abord parce que la légitimité d'Aîné, qui est un étranger dans le Latium, à régner sur les Latins, ne peut passer que par une alliance matrimoniale. Il faut qu'il épouse la fille du roi, et il faut que le roi n'ait pas de fils. Sinon, il y aura une concurrence dynastique. Donc, il faut qu'il y ait une fille unique du roi. Et ensuite, parce qu'il existe, dans le Latium, une cité qui s'appelle Lavinium, et qui était le siège d'un sanctuaire fédéral des Latins avant la domination romaine. Dans la version de Virgile, c'est Aîné qui a fondé cette ville et lui a donné le nom de son épouse. Et c'est la version que reprend Ursula Le Guin. Donc Lavinia joue un rôle important dans le mythe de la fondation de Rome et elle est associée au culte des fondateurs de la cité, même si on ne sait pas à partir de quelle époque elle est véritablement associée au culte. Je vous ai mis deux exemples, que j'ai pas traduite, une inscription du forum de Lavinium de l'époque d'Adrien au 2e siècle après Jésus-Christ qui nous donne la généalogie des fondateurs de Rome, donc Silvius Aîné, fils d'Aîné et de Lavinia. À Rome même, l'Auguste a rebâti le temple de Quirinus. À son époque, long story short, Quirinus, c'est Romulus divinisé. Et sur le fronton du temple, il a fait représenter tous les fondateurs de Rome. Je suis désolée pour la qualité, croyez-moi sur parole, le personnage qui est ici, c'est Lavinia. Et dans cette présence de Lavinia parmi la cohorte des fondateurs de Rome, et donc comme personnage mythologique, apparaît dans le roman de Le Guin, à la fin du roman, je suis désolée pour le spoiler, Lavinia atteint dans la diégèse l'immortalité. Donc comme elle a atteint l'immortalité dans la culture et dans la littérature, dans le roman, elle l'atteint dans la diégèse. Alors cette question de l'existence historique des personnages mythiques, on ne se la pose plus aujourd'hui en histoire antique parce qu'on a compris qu'on ne la résoudrait jamais. On n'a pas de source de toute façon, donc on a abandonné. Mais dans le roman, le questionnement sur ce statut est très intéressant parce que ça fait de Lavinia un personnage de fiction, mais qui est dépositaire de la vérité historique. Lavinia, elle a pleinement conscience d'être une création littéraire, elle le dit. Elle dit « Ce n'a pas été difficile pour moi de croire à ma propre fictionnalité. » Mais de manière contradictoire, elle en déploie les possibles. Non seulement elle comble les trous de l'histoire, les vides du récit source, en nous parlant d'éléments qui n'étaient pas du tout traités dans le poème épique de Virgile, la vie quotidienne au Latium, etc., etc. Mais en plus, elle corrige ce qu'elle appelle les petites erreurs du poète, qui selon elle déchirent le récit. Alors je vous donne deux exemples, un exemple qui est un détail, enfin qu'on peut penser, dont on peut penser que c'est un détail. Lorsque Virgile, le personnage, rencontre dans le roman Lavinia, il lui dit « Je croyais que tu étais blonde ». Et donc cette remarque sanctionne le fait que Lavinia existe en dehors de l'imagination du poète. Un deuxième exemple qui est beaucoup plus important en histoire, est lié à un épisode de l'Énéide où Énée envoie à son allié, le héros grec Évandre, le roi de Palanthéum, peu importe, des prisonniers à sacrifier sur la tombe de son fils. Ce passage a une double signification littéraire et historique. Vous avez peut-être saisi que c'est une référence à l'Iliade, où Achille met à mort des prisonniers troyens lors des funérailles de Patrocle. Et en histoire, c'est un passage qui est au cœur d'un débat historiographique très nourri sur l'existence ou pas du sacrifice humain à l'âge du bronze. Dans le roman de Ursula Le Guin, Lavinia affirme que c'est une erreur du poète, et elle lui en veut d'avoir écrit et d'avoir laissé croire que son époux aurait pu commettre de tels actes. Donc, le personnage supplée le poète et parfois le corrige, se substitue à lui, en affirmant qu'il ne dit pas toute la vérité. Selon moi, on peut voir derrière cette figure une mise en abîme du travail de l'historien, dont le travail est de distinguer si une scène d'exécution de sacrifice humain fait allusion à une pratique commune à une époque ou relève de la pure fiction. Cette question est particulièrement aiguë dans le cadre du sacrifice humain, parce que les sources archéologiques sont très difficiles à interpréter, et parce que, vous vous en doutez, derrière cette question, il y a un contenu moral dont on a du mal à s'abstraire. Et Lavinia ne s'en abstrait pas. Si elle en veut à Virgile d'avoir dit que son époux avait donné à son allié les moyens du sacrifice humain, c'est parce qu'elle trouve cela très choquant, et elle trouve que ça donne une mauvaise image de son époux. Je vais passer la suite parce que je ne vais pas avoir le temps. Et maintenant, je vais m'intéresser à la réécriture comme une reconstitution d'une expérience spécifiquement féminine de l'histoire. Donc, très clairement, le roman est un projet de gender studies, que ce soit sur le plan artistique ou historique. Et les deux sont étroitement liés, puisqu'en littérature, l'émergence du courant gender s'est notamment exprimée à travers la publication d'une série de réécritures d'œuvres majeures du point de vue d'un personnage féminin qui n'occupait qu'un rôle secondaire ou un rôle de figuration dont l'œuvre source. Et cette réécriture a aussi touché des œuvres qui ont le statut, comme l'Énéide, de source historique. Je vous ai mis quelques exemples. J'ai pris Margaret Atwood parce qu'elle a connu une nouvelle popularité à travers l'adaptation de La Servante écarlate. Donc c'est l'auteur de La Servante écarlate. Elle a écrit en 2012 une nouvelle qui s'appelle Gertrude Talks Back, donc une réécriture de Hamlet du point de vue de la mère d'Hamlet. Et en 2005, elle a écrit une Pénélopiade, donc vous vous en doutez, c'est une réécriture de l'Odyssée du point de vue de Pénélope. Et je vous ai mis juste pour l'année 2018, sont parues ou vont paraître deux réécritures, respectivement de l'Odyssée et de l'Iliade, du point de vue d'un personnage féminin, Circé et Briseis. Donc on voit que c'est un genre qui est tout à fait à la mode et qui retrouve dans les années 2010 une nouvelle fortune. Alors, ces réécritures ont pour objectif, entre autres, de présenter la complexité psychologique des personnages qui sont analysés davantage comme des objets que comme des sujets, traditionnellement. Ici, il s'agit de combler les vides en s'intéressant à ce qui n'intéressait pas, justement, les auteurs masculins, pour enrichir le propos. Virgile a conscience de ça dans le roman d'Ursula Le Guin, et il regrette d'avoir donné dans son épopée aussi peu d'importance à Lavinia. Sur le plan historique, le courant gender s'est traduit par une multiplication d'études sur le quotidien des femmes, qui est rarement directement décrit dans la documentation qui est parvenue jusqu'à nous. Notamment parce que cette documentation, lorsqu'on en a, ce sont des sources littéraires, qui relèvent en général de la littérature moralisatrice ou normative. Et pour la fiction, c'est souvent de l'épopée, donc comme l'Énéide, qui privilégie les conflits guerriers. Et en général, les personnages féminins qui ont un rôle important sont présentés comme des exceptions et pas comme des représentantes du genre. Dans l'Énéide, les personnages féminins importants, c'est Didon, la reine de Carthage, et Camille, la reine guerrière des Volsques. de manière très intéressante dans le roman Lavinia. Didon n'est qu'un souvenir lointain puisque Virgile refuse de parler de Didon à Lavinia. Elle a compris que ça n'allait pas être une bonne idée. Donc, il ne lui parle pas et Lavinia ne peut que se demander quelle relation a entretenue la reine de Carthage avec son époux. Quant à la guerrière Camille, elle n'apparaît pas dans Lavinia. Donc, le choix de l'auteur a été de faire disparaître un personnage féminin agissant dans l'Énéide pour se concentrer sur un personnage féminin qui n'était que secondaire. Et donc, pour écrire ce roman, l'auteur a dû se demander quelle était la vie d'une femme de la famille royale. Je laisse tomber, dans le roman de Lavinia, c'est la famille royale, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une structure royale du pouvoir à cette époque, mais peu importe. Donc, quel pouvait être son quotidien ? Sachant que l'essentiel des tâches domestiques est accompli par des esclaves, et que c'est donc la fille du roi. Alors, qu'en est-il du quotidien de Lavinia dans le roman ? On s'aperçoit que son quotidien est entièrement rythmé par des actes cultuels. Tous les matins, elle s'occupe du foyer domestique, le feu sacré de la déesse Vesta, qui ne doit jamais s'éteindre, dans le palais de son père, la Regia, qui sert de curie et de sanctuaire. Elle est aussi chargée de la fabrication de la salsa mola, c'est une farine rituelle qui est offerte en sacrifice chez les Romains. Et dans le roman, elle dit à Virgile qu'elle est la seule à pouvoir s'en charger. Elle participe activement aux sacrifices, que ce soit pour consulter l'oracle du bois sacré, les sacrifices domestiques ou les sacrifices publics. Et après la fondation de l'Avinium, elle est la gardienne des pénates qui sont ici représentées. Ce sont les effigies des dieux de Troie qu'Énée a rapportées avec lui. De manière très révélatrice, ces quatre formes de participation du culte sont celles qui, à Rome, sont dévolues aux Vestales. Les Vestales à Rome ont un statut juridique unique puisqu'elles échappent à la tutelle masculine pour les affaires civiles. Et ce sont les seules femmes qui peuvent prendre part activement aux sacrifices publics de manière indépendante. Elles jouissent d'un très grand prestige social qui se traduit par des privilèges, peu importe. Et elles incarnent la piété, c'est-à-dire le respect dû au sacré. Une caractéristique de Lavinia dans le roman de Le Guin, tous les personnages notent qu'elle incarne la piété, au sens étymologique du terme. Donc de manière très intéressante, Ursula Le Guin a donné à son personnage principal les caractéristiques d'une prêtrise qui n'est documentée que beaucoup plus tardivement, mais en se fondant sur l'une des conclusions majeures de l'histoire du genre pour l'Antiquité, qui est que c'est à travers les fonctions cultuelles dévolues aux femmes que l'on peut reconstituer les formes d'exercice féminin du pouvoir. En dehors du personnage de Lavinia, je le dis rapidement, l'auteur consacre dans le roman de nombreuses pages à la description de cultes orgiastiques typiquement féminins, auxquels elle prête les rites de fête qui sont attestés à l'époque romaine, les matralia et surtout les non caprotines. Ces fêtes, les non caprotines, qui ne sont pas appelées ainsi mais qui calquent exactement le déroulement tel qu'on le connaît, sont une institution de la mère de Lavinia. Et la description qui occupe une grande part, dans une place importante dans le roman, montre à quel point les fêtes féminines sont l'affaire de toute la cité, une affaire publique. Et alors que c'est une innovation religieuse, qui a visiblement un but politique, aucun homme, y compris le souverain, ne cherche à s'y opposer. Ce qui nous montre à quel point, dans le roman comme dans le discours historique actuel, c'est à travers les fonctions cultuelles accomplies par les femmes que l'on voit quelle était leur forme d'exercice du pouvoir. Et le dernier thème que je vais traiter, vite fait, ça va également porter sur la religion. Alors, qu'en est-il de la religion dans Lavinia ? Le déroulement du sacrifice se fait exactement selon les standards romains que l'on connaît, avec les autels, les animaux qui sont menés à l'autel avec les guirlandes, l'encens, les libations, la salsa mola dont j'ai parlé, le foyer, le tord, la toche prétexte, tout ce que vous voulez, le standard du rite romain du sacrifice. On a aussi un nombre de noms de fêtes qui nous sont donnés, les Ambarualia, les Compitalia, les Parentalia, qui sont des fêtes romaines bien connues. Parfois, comme pour les non-caprotines, le nom n'est pas donné, mais par contre le déroulement est celui des fêtes romaines. Donc au niveau du rite, on a quelque chose de très proche du monde romain. Concernant la théologie, c'est-à-dire les systèmes de croyances, Lavinia a une conscience très aiguë de la transcendance, qui lui inspire une profonde révérence. Mais dans le roman, plusieurs définitions des entités divines cohabitent. Alors, je suis désolée pour cet immonde, j'ai fait comme j'ai pu, cet immonde arbre généalogique. Les ancêtres de Lavinia se présentent comme d'ascendance divine, selon les standards du mythe des origines à Rome et dans l'Antiquité. Donc, il y a un lien entre les dieux et les hommes. En ce qui concerne les dieux eux-mêmes, quelques-uns sont mentionnés, Saturne, Mars, Tellus, Vesta. D'autres sont désignés par des périphrases, mais n'ont pas de nom propre. Et surtout, dans le monde de la Vinya, il y a l'idée qu'il existe une puissance divine inhérente chez tous les êtres, le numen, qui n'est pas traduit dans le roman, qui est donné en latin, qui relève d'une conception théologique de type animiste. Donc par exemple, pour la Vinya, Junon, qui est le nom d'une déesse bien connue, bien identifiée dans le monde romain, c'est le nom de la puissance divine chez les femmes. Ce n'est pas une divinité avec une idiosyncrasie. Pour la Vinya, les dieux n'ont pas de caractéristiques individuelles et pas de mythologie. Ce sont des manifestations de la transcendance. C'est un écart très grand avec la conception théologique romaine classique, qui est celle qu'a Virgile dans le roman, et qu'il attribue aux Grecs, en expliquant que c'est sous l'influence des Grecs que la religion des Romains a évolué. Et on le voit dans le roman, puisque Lavinia connaît déjà à son époque des rites qui ont été, et des cultes qui ont été implantés par les colons grecs, le culte de Cérès notamment. Donc, en soulignant l'écart entre les convictions religieuses de Lavinia et la mythologie mise en scène dans l'Énéide, celle de l'époque augustéenne, l'auteur, Ursula Le Guin, prend parti dans le débat historiographique en privilégiant ce qu'on appelle la thèse primitiviste, c'est-à-dire l'idée qu'il existait une religion romaine archaïque où les entités divines étaient très peu individualisées. Et cette théologie aurait évolué sous l'influence des Grecs pour en aboutir à la mythologie qu'on connaît. Et donc, dans sa postface, Le Guin invoque, pour justifier le choix de cette thèse, des historiens des religions, qui sont des historiens britanniques, je vous épargne leur nom, mais ce que je voulais dire, c'est que ce sont des historiens qui sont nés au XIXe siècle, parce que cette théorie, aujourd'hui, est complètement abandonnée. Et donc, c'est paraît très intéressant que, pour certains discours historiographiques, Ursula Le Guin soit dans l'actualité de la recherche, comme pour les gender studies, et que pour d'autres, elle est privilégiée des thèses obsolètes. Et je vais finir comme cela. Dans sa postface, le choix de cette thèse, dont elle ne sait visiblement pas, enfin, dont elle ne nous dit pas qu'elle est obsolète, elle s'en fiche, je pense, est justifié par des préoccupations littéraires. Elle nous dit que ça n'irait pas dans son roman que les dieux interviennent directement, ce qui est le cas dans l'Énéide. Et donc, outre la présence de Virgile comme personnage, tout ce qui dans l'Énéide arrive à cause de l'intervention directe des dieux, en gros c'est Junon qui veut se venger des Troyens, donc elle intervient tout le temps, dans Lavinia, c'est attribué soit à des causes pragmatiques, donc des causes réelles, on va dire, soit à des phénomènes inexpliqués. Par exemple, pour une des dernières péripéties du roman, qui n'est pas rapportée par Virgile mais par Denis d'Halicarnasse, peu importe, les pénates, donc les effigies des dieux de Troie, se déplacent toutes seules d'Alba Longue à Lavinium. Et ce n'est pas expliqué. Et aucune rationalisation n'est proposée dans un système cohérent de croyances. C'est un événement mystérieux qui a lieu. Et donc, le surnaturel dans Lavinia, c'est le destin tel qu'il est fixé par la tradition postérieure. Il faut que les pénates aillent à Lavinium. Et selon moi, c'est un type particulier de fantaisie qui remplace la théologie à laquelle adhéraient les personnages, mais qui, pour l'auteur, n'est plus un système de croyance. Donc en fait, il me semble que dans Lavinia, fantaisie, si on le classe comme de la fantaisie, c'est qu'en fait, fantaisie, c'est le nom d'une théologie qui n'est pas fictionnelle, parce qu'elle a existé, mais qui est caduque, à laquelle plus personne, il y a peut-être encore des gens qui font des sacrifices à Junon, mais je n'en connais pas, donc qui n'est plus en vigueur. C'est donc une œuvre de fiction qui propose une réflexion très intéressante sur l'histoire et qui, à mon avis, est très motivante pour l'historien, sur le plan épistémologique, mais aussi parce qu'elle pioche dans l'historiographie le matériau qui lui permet de construire le roman que l'auteur souhaite construire. Et ça s'inscrit dans la longue tradition de dialogue entre la science historique et la littérature. Voilà.
Merci, c'était tout à fait passionnant. Est-ce que tu... Donc je m'empare de la parole. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit à la fin sur la fantaisie comme forme de la que prend une croyance devenue caduque, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'était ça que...
Oui. Ouais. Bah, en fait, je me suis interrogée donc sur la... Pardon.
C'est pour l'enregistrement.
La plupart des... Si on demandait au lecteur de classer Lavinia, je pense que tout le monde le classe dans la fantaisie historique. Dans la mesure où il y a un substrat historique dont je vous ai dit qu'il était flou, mais voilà, vous avez compris. Qu'est-ce qui est fantaisie dans ce roman ? En fait, c'est ça que je me pose comme question.
L'apparition de Virgile.
L'apparition de Virgile, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a des éléments inexpliqués et non rationalisables qui ne sont pas attribuables à l'apparition de Virgile. Donc, à mon avis, ce qui a trait à la fantaisie dans ce roman, c'est, outre la conception cyclique du temps qui permet à Virgile d'être un personnage, c'est le fait qu'il y a des événements qui ont lieu, qui, pour les personnages, sont des événements qui sont explicables par leur système de croyance, puisqu'ils croient à l'intervention des dieux, soit sous la forme mythologisée qu'on connaît, soit sous la forme d'une humaine, mais qui, pour l'auteur et pour nous, ne sont plus des croyances. Et donc, en fait, leur théologie, pour nous, c'est de la fantaisie. Voilà.
Je passe la parole à la salle. Je sais, alors Christian Schelbourg la demande, mais je ne sais pas du tout où est le micro.
Non, mais c'est pas grave, je parle assez fort, je pense. Ça devrait pouvoir. Oui, non, moi, ça m'a passionné ce que vous avez dit. Est-ce que, parallèlement, ça induit, est-ce que j'ai tout compris ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que ça induit aussi une relecture de ces sources pseudo-historiographiques en quelque sorte, comme justement l'Énéide. C'est-à-dire, vous dites à un moment, pour nous, c'est des sources oui. historiographiques.
On en fait ce qu'on peut, mais.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, parce que, du même coup, dans la mesure même où ça joue sur le statut du texte entre poésie. sur le statut du texte entre poésie et témoignage historique, est-ce que ça induit une façon de revisiter épistémologiquement le statut de ces textes-là? Parce que bon, ça vaut pour l'Énéide, à la limite, pourquoi pas l'Odyssée de Mer?
Moi, à titre personnel, je pense. C'est ça qui m'a intéressée. Je pense que la lecture de ce type de roman historique, c'est quelque chose d'utile épistémologiquement pour l'historien. Parce que je pense que ça nous fait, notamment pour le courant gender, si je prends cette approche, ça souligne ce qui n'a pas été étudié en histoire.
Bah, pour le courant gender, vous l'avez démontré, oui. C'est un mini. Je veux dire, ça permet, pour le coup, effectivement, de revenir, oui. hein, de réécrire en quelque sorte le passé.
Ça permet de réécrire le passé, mais je pense que de lire des romans qui font cela dans l'ordre de la littérature, pour l'historien, ça permet de percevoir des axes qui n'ont pas été traités. Donc moi, je pense qu'épistémologiquement, là, la littérature remplit un rôle ici pour l'historien. Mais c'est mon avis personnel. Je pense que tous mes collègues ne sont pas d'accord.
Oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, moi, à titre personnel, du coup, je suis d'accord avec toi sur le plan épistémologique. C'est pertinent, mais du coup, il y a aussi, je pense, un intérêt pédagogique assez majeur de la fantaisie historique qu'on ne souligne pas forcément beaucoup, mais tu sais que tu aurais pu faire ton intervention sur les romans de Guy Gabriel Kay, tu as parlé des oui. Lions d'Al-Rassal. Clairement, je pense que les Lions d'Al-Rassal, c'est la meilleure introduction.
Et le meilleur livre que vous pouvez lire aussi.
Du coup, on est encore plus d'accord. Mais, voilà, c'est sûrement la meilleure introduction en fait, à la réalité de l'Espagne d'Al-Andalus médiévale, plus qu'un ouvrage de Gabriel Martinez-Bro pour des lycéens ou pour des étudiants.
Alors moi, j'ai quelque chose justement que je voudrais proposer à mes collègues, c'est que je l'ai longtemps pensé. Mais en fait, je pense qu'il y a un souci pédagogique qui est que si pour les étudiants ou les élèves, on ne déconstruit pas tout ce qui a trait à la fiction littéraire, ça se fixe comme représentation dans leur esprit. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que pour faire tirer pleinement le bénéfice historique des romans historiques, il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit des étudiants.
Ouais, mais même les étudiants...
Et... Ouais, et tout, ça me paraît assez intéressant. Oui. Là, clairement, la lumière, je trouve que ça marche.
Mais en fait, c'est plutôt, je trouve, c'est plutôt de la licence 3 que de la licence 1, à mon avis. Mais je me demande s'il y a des collègues qui arrivent à le faire en initiation, vraiment de manière pertinente, parce que moi, j'ai l'impression que c'est difficile parce que les étudiants n'ont pas assez de connaissances et ça les marque parce que c'est incarné par des personnages. Mais aussi, je le fais aussi.
Oui, du coup, la fiction a une très grande influence sur oui. nos représentations historiques.
Même sur les nôtres.
Oui, tout à fait.
Ça marche mieux qu'un manuel. Hein.
Oui, mais en fait, ça marche trop, peut-être.
Oui, d'où les Vikings avec les casques à cornes. Enfin, voilà, les choses dont on ne parvient pas à se libérer parce qu'ils ont été trop profondément marqués en nous comme mythe historique à cause de représentations fictionnelles répétées.
Je vais continuer dans ce sens-là. Merci pour la communication. Nous, on a ce même problème dans les études scandinaves, et notamment avec la série Vikings, là, récemment. Et du coup, moi, j'avais des étudiants, entre vous, L1-3-2, L1, à qui je faisais un cours d'introduction à l'histoire médiévale scandinave, et où je pouvais prendre des exemples de la série en leur disant, bah, vous voyez, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et qu'ils comprenaient bien. Enfin, voilà, ces deux personnages-là, c'est ce que tu disais aussi, en fait, ils sont pas à la même époque, là, ils sont devenus frères, alors, priori, ils en sortent en écart, truc. Les maisons, c'est pas les bonnes, parce qu'on avait des fermes un peu, comme on les voit, alors que chez les Scandinaves, c'est des maisons longues, des maisons bombées qui peuvent faire tempête, etc., etc. Donc ça peut être un exemple de départ, mais pour ensuite, justement, discuter de l'histoire. Mais ça, du coup, ça permet aussi de rebondir sur cette préconception. Sur quoi s'appuient finalement ces œuvres? Je trouve que c'était intéressant ce que tu disais, que l'auteur s'appuie finalement sur des historiens du 19e siècle, et ça on le retrouve aussi dans plein d'autres œuvres. Hein, c'est pareil pour Howard, avec quand même, il reconnaît en fait des conceptions assez anciennes. Demain, je parle de Viking, François, il y a des gens qui ont fait un manuel de jeu de rôle qui s'appuie en fait sur des manuels d'histoire, alors déjà qui sont de la vulgarisation de l'histoire, donc c'est pas les recherches. Récente, c'est déjà des gens qui avaient fait des livres pour le grand public, mais qui en plus étaient anciens, donc il y a deux, voire plusieurs niveaux comme ça de réception, avant qu'on arrive aux produits de culture populaire qu'on a pour les gens. Et du coup, comment, je voudrais savoir comment est-ce que tu conceptualises ça d'un point de vue d'historienne, cette histoire de la réception.
Alors,
est-ce qu'il y a des théories, des auteurs qui ont, enfin, moi j'en connais, Blumenberg sur la réception du mythe, mais qui n'a pas été traduit en français, mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui travaillent là-dessus, justement pour comprendre cette histoire de la réception entre les textes antiques et aujourd'hui?
Alors en fait, je me pose plein de questions là-dessus, j'ai pas de réponse extrêmement cohérente, par contre il y a des choses que je remarque à chaque fois que j'ai étudié, j'ai fait des études de réception. D'abord, le monde anglo-saxon diffère énormément du monde français, dans le sens où la vulgarisation, je vais faire super court, je suis désolée, la vulgarisation de bonne tenue est quand même plus fréquente dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone. Et j'ai l'impression que c'est plus nourri, en tout cas, de ce que j'ai lu dans le monde anglo-saxon. En fait, les gens qui écrivent dans le monde francophone, c'est des gens qui connaissent par leur métier, souvent, qui sont profs, très souvent, qui sont historiens, qui sont des littéraires, etc. Alors que dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression que c'est plus facile pour quelqu'un dont ça n'a pas été la formation de se faire une culture d'assez bonne tenue avec la littérature de vulgarisation. En revanche, il y a une question d'âge aussi, très importante, c'est que moi j'avais étudié pour Game of Thrones la question de la thèse primitiviste. Je pense que c'est celle que l'auteur a prise dans sa jeunesse, parce que c'était celle qui était en vogue. Après, il y a la question de la mise à jour des connaissances. Et puis aussi, je pense que pour les auteurs qui ont peut-être conscience de cette historiographie, ils ont aussi une liberté qui consiste à piocher dans l'historiographie pour construire l'intrigue ou pour construire le monde qui leur plaît. Et puis aussi, il y a des résistances. Je pense que, parce que j'ai évoqué un cas qui est une question morale, il y a des résistances, il y a des représentations justement qui sont tellement marquées dans l'esprit des gens, y compris des gens érudits, qu'elles ne disparaissent jamais. Je vous donne un exemple pour le sacrifice humain, le sacrifice de Moloch. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La représentation populaire, c'est que les Carthaginois sacrifiaient des enfants à Moloch en les jetant dans un brasier. Il n'y a pas de dieu Moloch chez les Carthaginois, donc déjà c'est un problème. Et en fait, les études sur ce... Ça vient de la Bible, je vous passe les détails. Les études sur les sources archéologiques, puisqu'on a trouvé ce qu'on appelle des tophètes, des cimetières d'enfants, montrent que l'immense majorité, ce sont des fœtus ou des enfants morts-nés, et que les jeter dans le feu, c'était les rendre acolytes du dieu, et c'était l'espérance des parents. C'est une espérance consolante. Et en fait, ça ne passe pas dans les connaissances populaires. Parce qu'en France, Moloch, c'est Flaubert. C'est Salammbô, c'est jeter les enfants dans le brasier de Moloch, et en fait ça déçoit les gens que ce soit pas ça. Donc il y a quand même une dimension de fascination pour la cruauté, je pense, pour le sacrifice humain, qui en fait est une barrière, j'ai l'impression.
Merci beaucoup. Alors on va faire une petite pause jusqu'à 11h. Les toilettes sont à l'espace court. Ça, c'est une question qui va se poser. Les cafés sont toujours là, les viennoiseries, je ne sais pas, mais la quête continue. À tout de suite.